Bonjour Madame Blandin, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la radio, représentante des Français d'Égypte au CSFE.
Non, ça s'appelle l'Assemblée des Français de l'étranger maintenant, mais c'est pas grave.
Pourtant, c'est pour nous parler de votre vie que nous vous recevons aujourd'hui. Au micro, Dana,
Shaima,
Marwa
et Asma.
Madame, en quelle année êtes-vous arrivée en Égypte et environ à quel âge?
Là, c'est ce que je vais te répondre. Par rapport au sphinx, je viens d'arriver. Je ne te dirai pas mon âge. Tu sais, quand on me demande mon âge, maintenant, je dis 100 ans. Tu sais, ça va? Parce que 100 ans, je suis plus près de 100 ans que de la naissance, tu vois? Ça va? D'accord. Maintenant, si tu additionnes les chiffres, ça me fait 8 ans. Alors, on va chercher. Hein, tu as juste les deux chiffres, tu en refais un, tu en refais deux, et j'ai 8 ans. Ça te va? Bon, alors écoute, c'est très bizarre mon arrivée en Égypte, comme quoi je voulais être pharmacienne, tu vois, j'avais commencé, puis j'ai eu la typhoïde. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de typhomycine, on soignait très mal, j'étais très malade, j'ai perdu mes cheveux, j'allais plus. Et il y avait la fille d'une amie d'enfance de mon père, qui était mariée ici avec un grand professeur qui a fini à l'Académie des sciences morales et politiques, qui s'appelait Monsieur Arnaldez. Tu as connu, toi, Roger Arnaldez. Et ils ont dit à mes parents, mais pourquoi, mais que René vienne au Caire, il était au Caire, il était proviseur du lycée français, que René vienne au Caire, ça lui fera du bien, le climat est bon, qu'elle change. Donc, me voilà arrivée au Caire. Ah oui, je suis arrivée au Caire parce que j'avais eu la typhoïde. Vous voyez, comme quoi, quelquefois, on va. Sur ce, j'arrive au Caire, j'étais chez eux, évidemment, j'ai connu tout le gratin de la société intellectuelle égyptienne, hein, dont M. Tahussen, entre parenthèses. Et j'ai une vie passionnante. Je suis restée, je me suis vraiment passionnée pour l'art copte, tu vois. Et ça m'a intéressée, j'ai voulu continuer. Et quand je suis repartie à Paris, j'ai fait du journalisme, en plus d'autres études, et je me suis mis à l'archéologie copte, à la datation des tissus coptes, tu vois. C'est comme ça que j'ai passé un diplôme avec le père Dubourguet. Père Dubourguet, qui était un père jésuite qui était ici avant et qui était conservateur au Louvre, d'ailleurs, du département des coptes. Ça va? De coptologie. Oui. Hein, bon, alors, voilà. Alors, si je vous disais comment j'ai appris l'arabe, alors là, vous allez rire. Ça vous intéresse? Savoir comment j'ai appris l'arabe?
Oui, on peut bien.
Bon. Eh bien, figurez-vous, donc, alors, il se trouve que... donc, je faisais du copte, je faisais truc. J'ai écrit un livre qui s'appelait Festival égyptien, qui est apparu en 1953-54, et où je racontais ce que j'avais fait. Ils étaient épuisés, maintenant, ce que j'avais fait ici. Et je passe mon examen de datation des tissus coptes en mai. Et comme ici, autrefois, on voyageait en bateau, hein. Alors moi, je voyageais en bateau, et quand on voyage en bateau, il y a toujours des familles égyptiennes, mais ce n'est pas une critique, hein, au contraire, moi je ne regrette pas, qui vous disent, écoutez, ça vous ennuierait de porter un paquet à un tel, à un tel, un paquet à un tel. Or, j'avais un paquet à porter, hein, au conseiller économique de l'ambassade d'Égypte à Paris. Je lui porte le paquet, et il me demande ce que je fais. Ah ben, j'ai dit, ben, vous savez, en ce moment-là, je prépare un examen COP. Mais il dit, écoutez, nous, à l'ambassade à Paris, on a tous les livres possibles avec des dessins, des explications, c'est formidable. Et vous voulez voir? Je dis, ben oui. Donc, je m'en vais. C'est que tout était écrit en arabe. Ah, j'ai dit, oui, c'est bien gentil, mais moi, je ne comprends pas. Même dit, vous n'avez qu'à apprendre l'arabe. Donc, je dis, oui, mais attendez, moi, j'ai mon examen bientôt, là. Enfin, il est gentil, il me dit, écoutez, si vous voulez, moi, je vous apprends l'arabe. Ça va? OK. Et le soir, chez moi, c'est tous des mathématiciens. Mon père avait invité un collègue qui sortait aussi de l'école des mines comme lui. Et moi, la fanfaronne, parce que je ne vais pas vous dire que j'étais une enfant calme, vous ne me croiriez pas. Donc, et je dis, ah ah, je vais apprendre l'arabe. Et cet ami vous dit, il y a longtemps de ça, c'est dans les années 50, et personne n'apprenait l'arabe et ne parlait arabe. Il me dit, pourquoi? Parce que tu as l'occasion. J'ai dit, oui, mais tu ne manques pas ça, surtout, ne rate pas ça. Bon, et j'ai appris l'arabe à l'Institut catholique à Paris, le copte. Et là, j'ai vu qu'il y avait un professeur d'arabe, qui était le père Abdeljalil, qui était marocain, et qui donnait des cours d'arabe. Alors, il y avait l'arabe, la première année, c'était 2 heures à 3 heures, la deuxième, de 3 heures à 4 heures, et l'autre, c'était après. Alors, je vais trouver le père Abdeljalil et je lui dis, mon père, je voudrais apprendre l'arabe. Très bien, très très bien, très bien, très bien. Alors, je lui dis, mais écoutez, est-ce que je peux rentrer, ne riez pas, hein, est-ce que je peux rentrer en deuxième année au mois de novembre? Je savais pas l'arabe. Hein. Alors, il me dit, ben oui. Alors, je sais que les professeurs sont toujours contents quand on a leur méthode, n'est-ce pas, cher ami? Donc, je dis au père Abdeljalil, oui, mais mon père, j'aimerais avoir votre méthode. Alors, est-ce que je peux faire les deux, la première année et la deuxième année? Oh, très content, bien sûr. Et je lui demande, mais quels sont les livres qu'il faut avoir? Alors, il me donne le livre de grammaire, il fallait lire « Ayou al-Waladou » d'Ibn al-Jalut. Alors, je dis, très bien, je vais acheter les livres. Tu connais « Ayou al-Waladou » ? Ah, c'est un grand poète arabe un peu soufiste, si tu veux, mais très bien. Donc, je vais acheter les livres, passe mon examen de COP, et je vais trouver ce cher monsieur Abdel Nasser à l'ambassade d'Égypte. Et puis, j'ai dit, ben voilà, je vais rentrer en deuxième année, au mois de novembre. Je crois qu'il aurait vu un tigre qui arrivait dans son bureau, ça aurait fait exactement le même effet. Hein? Je n'avais pas l'arabe. Hein? Je vais rentrer en deuxième année. Ah, formidable. Mais j'ai dit, mais vous ne m'avez pas dit que vous alliez m'apprendre l'arabe? Ah, il m'a fait oui. Ben, voilà. Voilà, voilà. Et alors, il a été formidable. Il m'a appris là. Et moi, je partais en vacances à Chamonix. Il m'envoyait les devoirs. Je corrigeais les devoirs. Et le matin, à 5h30 du matin, je faisais Aleph, B, T, C, Dal, Abba, Fata, Faltuna. Youhou! Et je me suis mis à apprendre de tout ce qu'il fallait en arabe. Mais ça marchait très bien. Si bien qu'au mois de novembre, moi j'avais déjà fait 3-4 mois d'arabe. Hein. Quand j'arrive en première année, j'étais un crack. Je regardais les autres qui commençaient seulement à apprendre Aleph, B, T, C. Moi, c'était fini. Hein. Deuxième année, hein, c'était un peu plus dur. Alors, comme c'était un peu plus dur, ben, quand j'étais perdue, j'allais le trouver. Alors, le problème, j'ai fini ma deuxième année. Et comme ce livre, tu sais, il y a des livres qui se vendent, tu ne sais pas pourquoi, des livres qui ne se vendent pas, tu ne sais pas pourquoi. Et comme ce livre s'est vendu, l'éditeur m'a dit, eh ben, c'est très bien, d'autant plus que vous apprenez l'arabe, vous allez continuer la collection, hein, sur les livres. Allez, vous partez. Ah, je pars. Eh ben oui, maintenant, on ne peut pas laisser comme ça 10 ans dans la même collection, il faut repartir. Alors, je ne savais plus trop où aller. Et j'avais dit, bon, j'irai au Liban, Syrie, parce qu'on parle français, c'est quand même plus facile. Et figurez-vous que je suis tombée sur des Jordaniens qui m'ont dit, on va s'occuper de vous. Donc j'ai commencé par partir en Jordanie avant. J'ai écrit un livre sur la Jordanie en 54, où j'ai même été au mariage de la reine. Et puis je suis revenue. Et alors, formidable, comme j'avais conservé tous mes amis ici, j'ai été la première qui a envoyé dans les journaux, et c'était le journal El Goumouria, qui a eu la photo du mariage du roi Hussein avec la reine Dina, hein, qui est apparue le premier, ben c'était moi qui l'avais envoyé. Vous voyez, tout ce que j'ai pas fait dans ma vie. Hein. Bon, après.
Pouvez-vous nous dire, madame, combien de temps a duré votre trajet en bateau de la France en
Afrique ? Alors attendez, c'était merveilleux autrefois. Autrefois, il y avait deux bateaux. Il y avait d'abord le Providence, et après le Champollion, où j'ai pris le dernier voyage avant qu'il s'échoue devant Beyrouth. Et ça durait 4 jours. Mais c'était merveilleux. 4 jours de mer. Vous imaginez 4 jours de mer? Alors, on faisait Marseille, ou Gênes, ou Naples. Hein, et après, on arrivait à Alexandrie. Et le premier voyage, je l'avais fait sur le Providence. Alors, évidemment, c'était sensationnel, parce que la première fois que j'arrivais en Égypte, hein, en 50. Donc, me voilà arrivée, je vois, il y avait autrefois ce qu'on appelait les tourgomanes, c'est-à-dire les porteurs. Ils étaient avec les pantalons bouffants, le tarbouche et tout. C'est très honnête. Alors, il y en a un, il était en bas, il me fait la cabine. Alors, je lui fais, par exemple, je ne me souviens plus, dis-toi, 12. 12. Il me dit, bien, c'est cool. Et puis, c'est on descend, je lui donne, il va chercher, on ne s'occupe plus de rien. Ah, ils étaient formidables et d'une honnêteté extraordinaire. Et puis après, on passait à la douane et mes amis venaient me chercher. Ils sont venus me chercher au port d'Alexandrie.
Quelle était votre première impression quand vous êtes descendu du bateau?
Ah ben c'est ça, j'étais vraiment sortie complètement. C'était plus du tout Paris. Hein. Hein, tout à fait, dans ce temps-là, il y avait une couleur locale. Bon, la première fois que je suis venue, imaginez, vous arrivez, vous voyez cette foule qui est là, parce que c'est un bigarrie de toutes les couleurs qui vient vous chercher. On lui dit, vous en faites pas, vous faites rien, il s'occupe de tout. Ah, mais c'est merveilleux. Là-bas, il faut faire attention à ses affaires. Oh là, pas du tout. On passe à la douane, et qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Pouf, on passe, on sort. Hein? Et puis, alors après, j'ai pris la route pour venir au Caire. Et alors là, quelle merveille, mes amis. Il n'y avait rien. Il n'y avait que du désert. Et c'était beau. Et quand on arrive près des pyramides, on voyait les pyramides grandir dès qu'on arrivait près du Caire. On s'arrêtait, il y avait un restaurant autrefois au milieu, qui était tenu par des Grecs, où on mangeait les meilleurs feuilletés d'ailleurs. Et puis voilà, me voilà arrivé au Caire. Ça va ? Tout le monde avec son tarbouche qui flottait au vent dans les voitures découvertes.
À votre arrivée, votre entourage était-il composé seulement d'étrangers ?
Pardon ?
À votre arrivée, votre entourage était-il composé seulement d'étrangers ?
Non, ben j'avais mes amis français qui sont venus chercher. Seulement, ils étaient amis avec toute la famille, vous savez, et tout. Et je me suis trouvée presque tout de suite dans le bain aussi égyptien.
Comment était la vie de tous les jours à Suez ?
Ah, à Suez ? Ah ben, ça dépend. Vous voyez, quand mon mari était pilote au canal, ça va ? Donc, il prenait un bateau. Moi, ben, j'avais du temps libre. Et comme je ne sais pas rester 5 minutes sans rien faire, j'étais professeur de bain. Ça vous fait rire, hein ? Je travaillais. Oui. J'allais au dispensaire et je m'occupais des bébés, à apprendre aux pauvres femmes comment on lave un bébé, comment on nettoie les oreilles, comment on les pèse et comment on fait tout ça. Eh ben oui. Parce que je vais vous dire une chose. Justement, moi, j'étais la reine de Suez parce que tout le monde m'adorait, parce que sachant l'arabe en plus, hein, j'allais voir dans les familles après comment les enfants étaient traités. Et alors, même je vais vous faire rire. Un jour, j'étais en train de laver un bébé et la sœur passe et me dit « René, vous savez qui vous lavez ?» J'ai dit « Non, pourquoi ?» C'est le fils de Hanouti. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que le Hanouti ?» Hein ? Elle me dit « C'est le type qui lave les morts. » Et le soir, j'arrive au club du canal où il y avait quelque chose et je lui dis « Ah ah, vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui ? » Eh bien, moi, j'ai lavé le fils du type qui lave les morts. Ah, ah. C'est pas tout le monde qui lave le fils du type qui lave les morts. Hein ? Et voilà, bon, ça c'est pour vous faire rire, mais c'était vrai, plus fort. La vie à Suez, ben, vous savez, elle était très agréable autrefois. C'était très agréable.
Avez-vous rencontré des années difficiles en Égypte et quels sont pour vous les moments les plus heureux ?
Ah ben, les années difficiles, c'est les années quand il y avait la guerre, mes amis. Alors moi, vous savez, comme je suis arrivée, après j'ai eu la guerre de 56, la guerre de 67. Alors, je vous dis que ce n'était pas des moments très agréables, surtout que jeune, j'étais jeune, mais j'ai eu la guerre en France. Alors moi, la guerre, c'est quelque chose qui me fait très mal, quelle qu'elle soit. Hein. Et je me souviens, à Suez, quand ils étaient entraînés en 67... en disant « On va à la guerre, si vous ne savez pas ce que c'est la guerre. » Je me suis tellement époumonée à leur crier « pas de guerre » que je m'en suis presque trouvée mal. Et ils ont vu, tout a été démoli. J'ai perdu la maison où j'habitais. Les bombes sont tombées sur la chambre des enfants. Heureusement qu'on n'y était plus. Et j'ai tout perdu, tout était démoli. Mais vous savez, une guerre, c'est jamais bon. Hein. C'est toujours des moments difficiles et pénibles.
Et quels sont pour vous les moments les plus heureux ?
Ah ben, les moments les plus heureux, ben, c'est quand on réussit ses examens, quand on a du succès, quand on se marie, quand on a des enfants, quand on a des enfants adorables. Ben, c'est ça les moments heureux, moi. Où est le plus ? Hein, quand on a fait plaisir, quand on voit qu'on a fait quelque chose d'utile, ben, c'est un moment heureux.
Avez-vous rencontré des personnages célèbres en Égypte comme des écrivains, artistes ?
Ah oui, je vous dis que j'ai rencontré, de même, j'ai même ma photo avec Madame Tahusen, j'ai rencontré Monsieur Tahusen, j'ai rencontré le père Anawati, qui était un grand, chrétien et islamologue, c'était un père de dominicain qui a fait énormément pour tout le couvent, et alors il m'appelait notre Afrita nationale, c'était moi la Afrita nationale, ça va ? Oui, j'ai rencontré, bien sûr, et des peintres, Marguerite Narla. J'ai rencontré même une femme extraordinaire qui s'appelait Madame Outelkouloub Eldemirtashia. Ah. Et Outelkouloub Eldemirtashia, je vais vous dire, je l'ai rencontrée d'abord parce que c'était une amie de Madame Nortandez. Et je peux vous le raconter, ça va vous faire rire. J'ai été invitée avec collègue dans la loge de l'opéra, dans sa loge. Et alors, on est allé chez elle. Elle était mince d'en haut, mais elle était très forte après. Et j'ai assisté à la femme de chambre qui mettait le genou pour tirer les lacets du corset pour que tout rentre dans le corset. Ça va ? Et après, nous sommes partis à l'opéra. Et alors là, je ne vous dis pas, le spectacle, dans l'ancien opéra, hein, celui qui a brûlé, qui était démoli. Hein, il fallait voir non seulement, qui était une merveille, mais il fallait voir les princesses en bas. Les toilettes, les beautés, les bijoux. Le spectacle était même presque en bas. Et vous savez qu'à ce moment-là, et personne ne veut me croire maintenant, on me croit si on regarde les archives, hein, la Comédie Française venait tous les 15 jours. Il y avait un abonnement, vous vous rendez compte? J'ai vu, parce qu'au Sémiramis, il y avait les grands de ce monde. Il y avait Agatha Christie, il y avait Churchill, il y avait... Tous les grands étaient là, ils venaient faire leur cure à Éloigne. Et vous savez qu'à Éloigne, il y a des sources d'eau chaude sulfureuse. Et autrefois, c'était très propre, c'était très bien entretenu. Et vous aviez des gens qui venaient passer 2 mois au Sémiramis et qui allaient faire leur cure à Éloigne. Ça va ? Donc, il fallait les distraire. Alors, j'ai vu les Bolchoï, les vrais. J'ai vu la Scala de Milan, les vrais, car tout le monde venait au Caire. Et on disait même que le public du Caire, à ce moment-là, était le plus difficile du monde, parce qu'il voyait les meilleures troupes à domicile. Ça va ?
Maintenant, revenez-vous sur les lieux de, votre jeunesse.
Pardon ?
Maintenant, revenez-vous sur les lieux de votre jeunesse.
Vous savez, bah oui, quand je repars en France, je vais sur les lieux de ma jeunesse, ça c'est sûr. En Égypte ? Ben, écoutez, je vais vous dire que franchement, comme... au Caire, bon, j'ai passé aussi au Caire, bon, j'y suis, j'y reste. Alexandrie, imaginez qu'à Alexandrie, autrefois, au mois de mai, au mois d'octobre, quand tout était fleuri et qu'on descendait jusque sur le... Il n'y avait pas tellement de monde, c'était agréable. Quant à Suez, j'avouerai franchement que j'y suis retournée et que ça m'a beaucoup déçue parce que maintenant, la ville est pauvre, elle est malheureuse, elle est sale, c'était quelque chose d'épouvantable et j'ai juré de ne pas y retourner. Et toi, tu ne parles pas ?
Quels sont les changements qui vous ont marqué au Caire ?
Les changements qui m'ont marqué au Caire ? Dans quel domaine ?
Dans la vie quotidienne.
La vie quotidienne, ben, elle a beaucoup changé, la vie quotidienne. Il faut vous dire que moi, quand je suis arrivée, on allait en voiture, on laissait la voiture où on voulait. Quand j'allais chez le docteur qui m'a accouché pour mes filles, c'était rue Castelnil, j'allais en voiture, je laissais la voiture en bas, je montais, je redescendais. Il y avait pas les voitures, non seulement les trottoirs, mais les rues étaient lavées chaque jour. C'était d'une propreté extraordinaire. La vie était très facile. Bon, on se recevait beaucoup, les gens étaient... Tout le monde parlait français. Et il fallait même que tout soit en français, parce que sinon, on avait l'air d'un imbécile si ce n'était pas en français. Alors, je n'oublierai jamais, il y avait place... à côté de la place Talatarbe, un peu derrière, il y avait un repasseur. Et alors, il avait écrit... la faute d'orthographe, vous allez la trouver. Il avait écrit « Ici, on repasse et trépasse. » On dit « On lave et trépasse. » Le T était mal mis, c'est-à-dire que ça devait être les microbes. Hein. On lave, et puis le ET, le E, et puis le T était passé avec repasse. Ça veut dire, ici, on lave et trépasse. Ah, mais ça fait rien, il fallait que ce soit en français. Et puis dans les journaux, vous aviez des choses formidables. Vous aviez les collèges religieux. Vous aviez la mère de Dieu qui avait rossé la Sainte Famille, ou des trucs comme ça, vous voyez. Hein, parce que c'était les matchs de foot. Non, mais c'était, tout était en français, c'était... Alors, il y avait dû remarquer que moi, en arabe, je fais pire que ce qu'il faisait en français. Hein, mais ça fait rien. Et quand on m'a demandé, madame, je ne voulais pas manger parce que je dis non, non, ça suffit. Mais pourtant, vous êtes d'une bonne grossesse. Bon, alors, bon, mais tout le monde devait parler français. Oui.
Après tant d'années, regrettez-vous d'avoir choisi de vivre en Égypte ?
Oh, sûrement pas. Oh, sûrement pas. Alors ça, s'il y a une chose que je regrette pas, j'adore l'Égypte et les Égyptiens sont si gentils. Encore maintenant, vous voyez, autrefois, c'était merveilleux, ça. Alors là, jamais, jamais une femme, on aurait essayé de faire n'importe quoi. Eh bien, regardez, je vais vous regarder ce qui s'est passé pour vous montrer qu'il y a encore des gens extrêmement gentils et ça a stupéfait tous les Français cet été. Je me suis fait une entorse, ok ? Ça arrive à tout le monde, hein. Et après, j'avais du mal à monter et le trottoir pour venir chez moi est extrêmement haut. Alors je mettais la main sur le capot d'une voiture pour monter sur le trottoir. Ah oui. Et puis il y a un garage au bout que je ne connaissais pas, je n'ai jamais été. Et puis tout d'un coup, je vois une belle pierre blanche. Il n'y avait personne. Bon, ça me faisait un escalier. Et puis deux, trois jours après, je vois des gens. Je dis, mais dites-moi, je voudrais savoir qui a mis cette pierre blanche. Et il y a un monsieur d'une quarantaine d'années qui me dit, moi, madame, j'ai vu que vous aviez du mal à monter, alors je vous ai mis cette... C'est adorable. Attendez, la suite est encore mieux. C'est qu'on a volé la pierre. Elle était très belle, cette pierre. Ah ben, j'ai retrouvé la pierre. Je ne sais pas si c'est celle-là ou pas. Mais il l'a cimentée au trottoir pour qu'on ne la vole plus. Eh bien, avouez la gentillesse. Vous savez que ça m'a beaucoup touchée. Avouez la gentillesse. Le type qui va cimenter une pierre au trottoir pour que je puisse monter. Vous ne trouvez pas ça adorable? Et quand j'ai dit ça en France, on a cru que je galège parce que je suis du Midi. Eh ben non. Parce qu'en France, c'est impossible. On n'a pas le droit d'abord de cimenter au trottoir. Mais le fait d'avoir fait ça, vous voyez à quel point ils sont gentils? Bon, maintenant, j'ai une autre qualité. Je vais vous dire pourquoi je suis très heureuse en Égypte à l'heure actuelle encore. C'est que j'ai trois choses qui sont très agréables ici. Un, je suis vieille. Non, ça vous fait rire. Mais on respecte encore les vieilles personnes ici. Les vieilles personnes, ça, encore, bon, ça me permet de faire beaucoup de choses. Je parle arabe, l'arabe du peuple, puisque je l'ai appris avec mes pauvres à Suez. Alors, j'ai un vocabulaire épouvantable. Ça ne fait rien. Je dis des choses que des Égyptiens de bonne famille ne disent pas. Quand ils se plaignent, je dis « Ouliabaset !»« Ouliabaset !» Hein, vous ne connaissez pas? Non, parce que c'est de l'arabe populaire. Hein, j'ai appris ça à Suez, moi. Les gens de bonne famille ne disent jamais « Ouliabaset !» Alors, le chauffeur me répond « Ah oui, on répond « Yahaset, Vitaban, Yahag !» Bon. Et puis, je les fais rire. Je les fais rire. J'ai toujours un... Je les plains. Ce sont des gens qui vivent dans le pétrole, dans la benzine, dans cette odeur, pendant des heures et des heures, dans les embouteillages. Hein? Alors, je vais vous raconter trois petites anecdotes avec eux. Alors, un, il se plaignait, il me dit, « Madame, Anna Amélie, qu'est-ce que je fais dans l'embouteillage ?» Je dis, « Tu sais, moi, je sais ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais, madame ?» Il dit, « Ben, je vais acheter un âne, du trèfle, et je fraîchis sur le trottoir. » Alors, cinq minutes après, il me dit, « Tu sais, madame, le trèfle, le barcim, il est très cher maintenant. Le taxi, c'est beaucoup mieux. » Ou bien l'autre jour qui m'appelle Madame Omelette. J'entends un qui m'appelle Madame Omelette. Oh, je dis, oui, ça doit être moi. Alors je monte, il me dit, tu sais, je t'ai jamais oublié. Parce qu'il se plaignait, bien sûr, que ça ne marche pas, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de trucs et tout. Et je lui dis, tu sais ce qu'on dit en France? En France, on dit que pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Ah, je vois, il y a madame, bien sûr. Je lui dis, tu vois le razou, le problème, c'est qu'on a cassé les œufs, on n'a pas d'omelette, elle n'est pas encore cuite. Alors il est parti de rire. Bon. Tu vois, alors je me débrouille très bien, moi. Oh là là, j'ai pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Quel est le secret de votre vitalité?
Ah, le secret. Moi, vous en voulez des choses. Même mon secret. Ben, je vais vous dire une chose, le secret. Le secret, d'abord, c'est donner de la joie aux autres. Comme ça, on en a soi-même, d'ailleurs. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Une tête de constipé, là. C'est horrible. Vous rentrez dans un magasin où il y a quelqu'un qui fait la tête. Vous avez envie d'acheter, vous? Ben, moi non plus. Mais si vous la voyez souriante, agréable, oh ben, ça fait rien, on achète quand même quelque chose. Okay. Et puis, avec ma longue expérience, ça finit toujours par s'arranger. Il ne faut pas s'énerver. Il faut toujours prendre la chose avec calme. Et puis, on réfléchit, on prend un papier, on se dit, voilà, ça, qu'est-ce que ça va m'amener de bon et qu'est-ce que ça va m'amener de mauvais, hein? Et puis, on choisit. Et puis, une fois qu'on a décidé, ben, on fait ce qui est bon, puis on laisse ce qui est mauvais. C'est comme ça que vous avez, vous, à faire des choix. Vous-même aussi, choix des camarades. Hein? Oui. N'allez pas avec des camarades qui aient une mauvaise fréquentation, c'est mauvais. D'abord, vous, ça, c'est pas bon pour vous, et ensuite de ça, ça vous mènera à rien du tout. Hein? En plus de ça, le choix de votre travail, faire son travail convenablement, le plaisir d'avoir un travail bien fait. Hein? J'ai toujours essayé de faire mon travail le mieux possible. Et c'est pour ça que quand j'ai été élue en 84, hein, et que j'ai fait mon travail correctement, on est venu me dire « Tu repiques !» Là, tu recommences. Et depuis 84, je repique, ça fait 28 ans maintenant. Ouais. Mais même temps que je suis toujours conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, parce que ça s'appelle comme ça maintenant. Pourquoi? Parce que je m'occupe de mes administrés, parce que je suis content, je rends service. Vous savez, la meilleure des choses, c'est d'aimer les autres et de leur rendre service. parce que vous en retirez tellement de joie. Et quand vous avez la joie, vous avez la santé. Ça va ?
Merci, madame, de nous avoir parlé de votre vie et de l'Égypte d'autrefois.
Bon, eh bien, écoutez, vous êtes adorables toutes les quatre.
Merci.
Et je vous souhaite beaucoup de succès.
Merci.
Hein, et une vie très heureuse.
Merci à vous aussi.